Bienvenue à toutes et à tous sur un nouveau podcast Top Comics où ce soir nous recevons Xavier Fournier pour parler de son prochain livre, Kirby Sphere. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Stéphane, comment ça va?
Ça va très bien. Nous sommes ensemble pour donc évoquer ton prochain livre, Kirby Sphere, qui est actuellement en campagne de financement sur Ulule. D'ailleurs, nous donnons tout de suite l'adresse, c'est fr.ulule.com/kirbysphere/. Et vous retrouverez évidemment le lien dans le descriptif de ce podcast. Je voulais commencer cette interview, Xavier, par une petite question un petit peu personnelle. Je voulais savoir à quand remonte ton plus vieux souvenir lié à Jack Kirby?
Écoute, quand je suis tombé sur mes premiers exemplaires de Strange, qui était la revue mythique à l'époque que les gamins lisaient quand ils se mettaient aux comics. Kirby était plus tellement dans l'équation de ces épisodes-là, à part quelques numéros éloignés, et il avait déjà migré vers les albums fantastiques, qui étaient des albums grand format que Lug avait mis au point pour essayer de déjouer une forme de censure. Et donc moi ça m'allait pas des masses. Parce que d'abord, les planches étaient agrandies. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent: Ah, mais c'est encore plus superbe quand c'est agrandi. Non, quand un auteur a pensé ses planches pour qu'elles soient vues à un certain format, ça joue. C'était sur des albums qui étaient plus chers à l'époque. Je crois que Strange valait 3 francs, 50, 4 francs. Et les albums des Fantastiques, c'était 10 francs ou 12 francs. On ne te rend pas compte dans le budget que c'était. Et je ne m'y retrouvais pas tellement en tant que gamin parce que, les lecteurs aujourd'hui qui râlent sur les traductions qu'il peut y avoir en France ne se rendent pas compte de ce que c'était à l'époque. C'est-à-dire que les séries étaient désynchronisées. Les épisodes de Daredevil, de Spider-Man, des Avengers étaient pas synchro les uns par rapport aux autres. Il y avait des fois 2 années ou 3 années de différence. Donc on avait les choses dans le désordre. Et on avait, par exemple, des épisodes de John Buscema. On pouvait voir passer ça, par exemple, dans Nova, les rééditions du Surfeur d'argent de John Buscema. Et à côté de ça, on avait des épisodes des Fantastiques de Kirby qui avaient juste 10 ou 12 ans de plus. Et c'était un peu compliqué dans la tête d'un gamin d'essayer de remettre les choses dans le contexte et de se dire que c'était le truc qui avait l'air plus vieux. Oui, bah c'était le taulier qui avait construit la maison. Mais ça, tu le perçois pas forcément. Tu vois un truc qui est plus moderne et tu te dis ça, c'est mieux. Et donc, tu te reconstruis un petit peu le cerveau après en tombant sur des œuvres de Kirby. Moi, je me souviens très bien que le premier truc qui m'a scotché de Kirby, c'était les New Gods qui étaient traduits chez Eddie Artima dans une revue qui s'appelait Aventure Fiction. Et ça m'avait scotché parce que d'un seul coup, j'avais compris le truc, quoi. Donc après coup, rétroactivement, c'est les fantastiques de Kirby, c'est quelque chose que à l'adolescence j'ai redécouvert et compris. Mais le premier contact n'était pas évident, on va dire.
Et donc maintenant, qu'est-ce qui te plaît personnellement dans le dessin de Jack Kirby et puis même plus globalement en fait chez l'artiste Jack Kirby?
Dans le dessin de Jack Kirby, alors d'abord il y a différentes époques, hein, les choses sont pas forcément les mêmes suivant qu'on parle du Jack Kirby qui travaillait un petit peu sous l'influence de Joe Simon, et Joe Simon lui a apporté quelque chose qui était beaucoup plus anatomique en un sens, beaucoup plus réel. Et puis plus tard, il a pris ses aises. Alors, en fait, dès les années 50, pour faire quelque chose qui a progressé vers ce qu'on connaissait vers la fin des années 60, début des années 70. Donc il y a c'est un petit peu, tu sais, il y a sauce kebab, sauce blanche, sauce harissa. Il y a des choses un peu différentes. Et il y a même des périodes où, honnêtement, il y a des épisodes de Captain Victory qui est une de ses dernières séries. Je peux pas dire que graphiquement c'est la plus belle chose qui l'ait fait. Et là, il y a forcément quelqu'un au fond qui est en train de lever le poing en disant quoi comme hostile. Non. Par rapport au reste de son œuvre, il y a des effets qui sont un petit peu contrariés par l'ancrage. D'ailleurs, je trouve que Kirby n'était pas très regardant sur ses encreurs et qu'il aurait eu une autre carrière avec des gens qui étaient beaucoup plus sur le pont, quoi, pour l'accompagner. Et tout ça pour te dire que fondamentalement, ce que j'apprécie aujourd'hui dans le travail de Kirby, c'est quelque chose de primaire. C'est vraiment l'expressionnisme, l'imagination pure qu'il y a derrière ce truc-là, quoi. Qui fait que le gars derrière, il te dessine un cube transparent et ça devient le cube cosmique, quoi. Ça devient le truc qui peut recréer l'univers. Et fondamentalement, une fois que tu as compris la tonalité avec laquelle il raconte ça, une espèce de mélange de grandiloquence et en même temps comment dire, de double sens, hein, de second degré, bah après, tu profites de ça. Ouais, c'est le moteur qu'il y a derrière ces traits qui m'intéresse le plus.
Alors, les ouvrages sur Jack Kirby ne manquent pas. Il y a eu pas mal d'ouvrages sur lui qui sont sortis, même traduits en français. Je pense notamment au livre de Jean Depelet ou même le livre de Marc Evanier, traduit chez Urban Comics. Qu'est-ce qui t'a poussé?
Et si je peux
Vas-y, vas-y.
rajouter aussi, tu as aussi le bouquin d'Alex Nikolaevitch. Et puis, il y a eu une petite bio il y a quelques années de Jean-Paul Genca. Oui, effectivement, il y a plein d'articles en général. C'est pas l'auteur le plus méconnu sur Terre, quoi.
J'ai presque cru que tu allais devancer ma question. Qu'est-ce qui t'a poussé le plus à écrire Kirby Sphere?
Alors, Kirby Sphere, c'est un projet que j'ai depuis quelque temps on pourrait dire dans le back-office. Historiquement, il faut, hein, j'explique un petit peu le format de ce type de bouquin. Vers 2007, je crois, on a travaillé beaucoup sur le site de Comic Box, qui avant était un site qui s'animait surtout pour les sorties des numéros, et on a décidé d'en faire un site qui était mis à jour beaucoup plus souvent, pour ainsi dire quotidiennement. Et pour ne pas parler que des news de la semaine, j'avais lancé une rubrique qui s'appelait Oldies but Goodies. Et je crois que si on cherche un peu dans l'archive du site, on peut voir que ces premières Oldies but Goodies sont relativement courtes. Ça fait quelques paragraphes, voilà. Je me suis pris un peu au jeu et j'ai vu aussi que les premières personnes qui commentaient se prenaient au jeu. Et en plus, je me suis rendu compte que ces chroniques-là étaient énormément lues. C'est devenu un moteur de fréquentation du site. Et donc, ça intéressait les gens. Donc, je me suis poussé de plus en plus là-dedans, alors, à plus forte raison, puisque dans les sites, tu n'es pas limité par la place, donc j'ai fait des choses qui étaient très longues et très détaillées. Et à un moment, d'abord, certains lecteurs m'ont dit, bah tiens, ça serait bien un jour d'en faire une version reliée, ce dont j'étais pas entièrement convaincu. Autant, il y a quelques années, là, on a fait une édition d'une rubrique que je faisais dans le magazine Comic Boss qui s'appelait Docteur Psycho. Et là, pour le coup, je trouvais que ça aurait été idiot de rajouter deux chroniques pour la fin et puis de dire aux gens, ah, vous êtes obligés de racheter le bouquin parce qu'il y a deux chroniques que vous n'avez pas. J'aurais trouvé ça malhonnête. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit, quoi, comment c'est malhonnête de revendre un bouquin où tu n'as rien rajouté. Mais dans ce contexte-là, ça m'aurait semblé un petit peu comment dire, appâter les gens avec trois chroniques faites sur le coin de la table et puis dire, voilà, si vous voulez des bonus, vous êtes obligé de prendre ça. Là, sur ce truc-là, je me suis rendu compte que d'abord, j'avais pas mal d'idées d'articles. De choses qui pouvaient se compléter et que c'était un peu comme des pièces d'un puzzle qui étaient dans le désordre et qu'en les remettant dans l'ordre, ça commençait à faire quelque chose. La rubrique, je l'ai finalement arrêtée quand j'ai commencé vraiment à me lancer sérieusement à faire des livres parce que, honnêtement, le magazine Comic Box, plus ces rubriques-là, plus les livres, c'était un truc pas possible. C'est ma vie sociale ressemblait un petit peu aux gens de Lost. Et j'ai arrêté cette rubrique-là en 2013 ou en 2014, je me souviens plus exactement, 2014 sans doute. Mais par contre, quand je l'ai arrêté, j'avais déjà une centaine d'articles en chantier. Alors que quand je l'ai arrêté, il y avait déjà 380 Oldies but Goodies dans le truc. Donc je me suis rendu compte que en réorganisant un petit peu, j'avais une masse d'articles qui représentait, je crois, à l'époque, 2500 pages de livres. Et tout ça, c'était assez pratique pour faire à chaque fois on va dire, la base d'un bouquin que je pouvais compléter avec les rubriques non publiées ou les rubriques que j'allais rajouter. Donc, il y a toujours eu dans ma tête l'idée que j'avais sans doute, je pouvais sans doute faire un bouquin sur, je ne veux pas trop spoiler les trucs potentiels que je pourrais rester, mais je pouvais sans doute, on va inventer un truc absurde, hein, mais si je voulais faire un bouquin sur les vaisseaux spatiaux et les comics, bah, je pourrais, quoi. Il s'appellerait pas vaisseaux spatiaux et comics parce que c'est pas comme titre, mais j'aurais la base et je pourrais la combler. Et dans ces trucs-là, il y avait un terme que j'avais déjà utilisé dans mes rubriques sur Internet qui s'appelait Kirby Sphere. Parce que le terme qui est souvent utilisé par les fans de Kirby, c'est parler de Kirbyverse, de l'univers de Kirby. Mais c'est un terme qu'il a utilisé de manière commerciale pour certaines de ses créations. Je trouve que ça prête à confusion avec ce que j'avais en tête, qui était vraiment de parler de la biosphère de Kirby. C'est-à-dire de parler, pour moi, Kirby commence avant Kirby. Il commence par ses influences et il se poursuit par les gens qui l'a influencé ou qui, de manière moins noble, moins heureuse, l'ont pompé. Voilà, j'avais cette idée de Kirby Sphere, mais je m'étais fait exactement la même réflexion que toi. Il y a eu un moment où d'abord j'avais d'autres chats à fouetter, soit dans des projets, soit dans des choses comme par exemple la Red Comic Box a fait que pendant quelques temps il a quand même fallu que je me retourne et que je me réorganise. Et le projet Kirby Sphere, moi je pensais pas l'aborder avant, allez, je pense 2021 ou quelque chose comme ça. Il se trouve que j'avais un projet qui était beaucoup plus avancé et que, mais vraiment très très avancé, un projet là pour le coup en deux tomes. Et je me suis fait piquer mon ordinateur il y a quelques semaines, ce qui a été une grosse catastrophe parce que j'avais des archives là-dedans, j'avais des enregistrements d'interviews. Alors même si j'avais des doubles sur des clos de quand t'as une certaine quantité de documents, enfin il y a juste un moment où tu ne peux pas tout mettre sur les clouds parce que ça devient impossible. Et donc ça a été une grosse cata. J'ai perdu la toute dernière version de ce bouquin en deux tomes. Alors, heureusement, j'ai des sauvegardes. Je pouvais refaire le truc et puis finaliser ce bouquin en deux tomes. Je me suis fait piquer l'ordinateur là le lendemain où j'avais commencé de préparer la page Ulule pour lancer le bouquin. Donc c'est pour t'expliquer vraiment comment c'était comment la c'était acide quand je me suis rendu compte que l'ordi n'était plus dans son truc. Il y a un type dans la rue qui est venu me voir en me demandant si j'allais bien, quoi. Qui a cru que j'allais faire un malaise. Et en rentrant chez moi, en commençant à réinstaller les choses sur un nouvel ordinateur, en faisant l'inventaire des choses qui manquaient et des choses qui manquaient pas, et en réouvrant les répertoires, je me suis rendu compte que le répertoire Kirby Sphere, il avait à l'époque, dans quelques semaines en arrière, il faisait quand même ses 600 000 caractères, je crois, pratiquement 700 000, que c'était pas dégueulasse en termes de longueur, et que fondamentalement, c'était beaucoup plus sympa de se dire, par rapport à la fenêtre des tirs que j'ai prévu, je peux encore lancer le financement de ce bouquin-là début juillet et utiliser les semaines qui me restent pour finir Kirby Sphere, c'est-à-dire faire des nouveaux textes, et c'est beaucoup plus gratifiant, quoi, de faire des nouveaux textes que de faire de mémoire des textes que tu as perdus. Et en me disant, en plus, ça me permet de souffler. Et si Kirby Sphere rencontre l'écho que j'espère, et ben à ce moment-là, le fameux projet disparu en deux tomes devient idéalement mon projet 2020. Donc voilà, c'est une réponse un peu alambiquée, mais fondamentalement, le sort s'est occupé de donner un coup de pied dans la fourmilière de mon planning, de ce que j'avais décidé. Et en fin de compte, Kirby Sphere s'est imposé à moi comme une manière de rebondir. Tout en sachant que au moment où j'ai commencé à annoncer le truc, je me suis dit, voilà, est-ce que les gens, effectivement, vont accrocher à ça? Il se trouve que ce qui différencie mon approche sur ce bouquin par rapport au bouquin dont tu as parlé, c'est que aussi bien le projet de Jean-Paul Genequin que celui de Jean de Pelé ou celui de Marc Evanière sont des bios, des bios assez détaillés, assez fouillés. Honnêtement, moi, j'ai pas du tout envie d'aller rajouter des petites notes de bas de page et puis de ressortir moi ma propre bio de Jack Kirby pour dire ah, regardez, moi aussi j'en ai fait une. C'est pas du tout. D'abord, ça c'est pas respectueux des gens qui ont déjà fait le travail et je le sens pas moi comme ça de le faire. Par contre, c'est une sorte de. Alors c'est peut-être un peu plus voisin avec ce qu'a fait Alex Nikolaevitch, mais en un sens, c'est plus hardcore. C'est sans doute le bouquin le plus hardcore que j'ai fait en termes de lecture de comics. C'est pas un bouquin que je laisserais dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais lu de comics. Parce que le format de Oldies but Goodies, c'est vraiment de raconter pratiquement page par page, case par case, et de faire de l'explication de texte. Donc c'est vraiment précis et c'est vraiment un exercice totalement différent de ce que j'ai pu faire sur mes bouquins précédents. À la rigueur, peut-être que ça se rapprocherait un peu de ce que j'avais fait sur les comics et la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà quoi, vraiment, c'est il y a un moment, il y a un chapitre que j'ai fait où je crois que je fais une digression de 15 000 caractères pour expliquer ce qui a inspiré Kirby et quel auteur est derrière cette scène-là. Donc il y a un moment où entièrement on ne parle plus de Kirby, on parle de l'auteur qui a inspiré le truc parce que ça permet de mieux saisir Kirby. Tu comprends ce que je veux dire?
Tout à fait. Est-ce que
C'est un petit peu une vision en creux, quoi.
c'est pas un petit peu comparable à ce qu'on a connu, notamment dans un hors-série de comic books consacré à la science-fiction, où tu évoques notamment les sources d'inspiration de Kirby sur La Source, par exemple. Est-ce que c'est un petit peu comparable à ça?
Alors un petit peu parce que oui, de toute façon quand tu ça je c'est pas un grand mystère, je vais pas spoiler grand-chose pour les gens qui s'intéressent un peu au sujet. Quand tu t'intéresses à Kirby, il y a deux choses sur lesquelles tu peux pas faire l'impasse. C'est les New Gods, les Eternals, qui sont deux variations un petit peu cosmiques sur les dieux venus d'ailleurs. Hein. On pourrait dire toutes les théories un petit peu de façon Eric von Daniken sur les anciens astronautes, quoi. C'est Alien Theory quelque part. Donc ça c'est un truc. Il y a aussi clairement une influence de 2001 Odyssée de l'espace. Et ça, pareil, quoi. C'est tellement évident que ça servirait à rien que je tente de vous le cacher. Par contre, après, il y a beaucoup de choses beaucoup plus pointues. Une fois que tu as commencé à mettre le nez dans le truc, où tu vas te dire, tiens, tu te rends compte que telle scène des fantastiques correspond exactement à une vieille nouvelle de science-fiction. Et on sait que Kirby était très très lecteur de pulp, des choses comme ça. Et donc tu vas voir effectivement et tu tombes sur la nouvelle et tu te rends compte que c'est raccord. Mais tu joues l'exercice plus loin, tu dis, mais alors du coup cet auteur-là, je vais quand même aller voir ce qu'il a fait d'autre. Et d'un seul coup, en épluchant ses autres romans, tu tombes sur une scène où tu fais, attends, mais ça c'était autre comics. Et tu commences à dire, tu tires sur la pelote et d'un seul coup, tu retournes vers tes fantastiques et tu fais, ah mais alors attends, en fait ça c'est ça. Ça si je le déplace ça, en fait c'était le truc. Et tu te rends compte qu'après, la même nouvelle, tu la retrouves encore dans une autre série, complètement différente de Kirby, mais où en fait c'est la même nouvelle, mais comme elle a changé d'ambiance, tu la reconnais pas.
Il s'agit de décortiquer en fait les influences de Kirby.
Je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que ça permet aussi de mieux comprendre, comment te dire, Kirby, il a été copié plein de fois. Ou en tout cas, plein de gens ont tenté de le copier, ce qui est encore une chose différente. Mais on pourrait dire, après tout, ok, mais Jack Kirby et Joe Simon, tout autant qu'ils soient Jack Kirby et Joe Simon, à leur début, quand ils ont créé Captain America, si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire des comics, tu vois bien que Captain America n'est pas du tout le premier super-héros patriotique, et pire que ça, qu'il y a un personnage qui s'appelle avant le Shield, qui a débuté un an avant chez un éditeur concurrent, et qu'en gros, ça se ressemble vraiment énormément, et que Joe Simon et Jack Kirby ont bien pompé sur le Shield pour faire Captain America. Donc tu peux te dire, finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais tu comprends une chose finalement, c'est que t'as les gens qui comment dire, t'as les gens qui copient pour faire autre chose, et t'as les gens qui essaient de copier pour se faire passer. Et donc, Jack Kirby a fait un. On pourrait le comparer à un remixeur, et il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas les remixes, hein, mais Jack Kirby a pris de la même manière qu'un gars va prendre, je sais pas moi, une boucle de tango pour l'intégrer dans un remix moderne. Bah ça, c'est un peu la démarche de Jack Kirby. Et puis, tu as des gens qui ont tenté, ont sans doute se sont dit, bah, c'est pareil, mais qui finalement, il y a tout un paragraphe, tout un chapitre où j'explique ça, ont fait du Kirby, c'est-à-dire qu'ils ont pompé pour faire du Kirby, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pour se faire passer pour l'auteur quelque part, pour s'inscrire dans cette continuité. Et du coup, on comprend bien finalement où est la limite, en fait, à mon avis.
Justement, tu parlais de l'écriture de Kirby Sphere. Est-ce que tu es du genre à fonctionner à l'instinct dans ton écriture ou bien est-ce que tu structures tout avant de rédiger dans le détail?
Alors, je crois dans les vertus du chaos, mais un chaos organisé. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je prends un petit peu des notes quand je relis des épisodes, parce que bien entendu, il faut relire les épisodes, il ne faut pas se contenter d'aller voir des résumés quelque part ou trucs comme ça. Il faut vraiment relire des choses à plus forte raison sur des vieux épisodes où parfois, ça fait quelques années que tu les as lus et toi-même, tu as changé et tu ne vois pas les mêmes choses. Donc ça vaut le coup d'aller les relire. Après, je prends mes notes et j'utilise un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est souvent utilisé pour l'écriture de thèses ou de scénarios, et qui est pas mal parce que ça te permet de... tes paragraphes deviennent des modules quelque part. Ce qui fait que tu peux poser tes notes dans un ordre. Et alors en racontant en détaillé, ça a sans doute l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est dans le logiciel. Mais donc tu mets tes notes, tu organises le truc. Et il y a un moment, tu te dis, mais attends, finalement, si je mets telle référence à tel endroit, à tel truc, bien entendu, c'est jamais qu'une forme de copier-coller que tu pourrais faire sur Word. Mais là, tu as une sorte de vue par le haut qui est beaucoup plus intéressante. Donc je fais le gros de mon chapitre comme ça, je travaille par chapitre. Et après, une fois que j'ai fait ce truc-là, je repars sur Word, faire un travail de relecture de temps, de savoir où est-ce que je peux mettre telle note de bas de page ou tel truc comme ça. Et je travaille en écrivant les chapitres dans le désordre. C'est-à-dire que quand tu vas lire le livre, si tu le lis, tu ne le liras pas dans l'ordre où je l'ai écrit. Parce que parfois, ça te permet toi-même de t'oxygéner. C'est-à-dire que je sais pas si on prend l'exemple de Kirby Sphere, si j'enchaîne deux ou trois chapitres, c'est vraiment des chapitres qui font leur qui sont parfois quelquefois un peu longs. Si j'enchaîne deux ou trois chapitres qui sont sur la sur des questions de je sais pas cosmique ou machin comme ça, il y a un moment au troisième, tu peux un peu commencer à... Voilà quoi, tu vois, à chercher un petit peu tes synonymes ou tes trucs comme ça, ou être à bout de vocabulaire parce que t'as traîné les mêmes questions. Si tu te sers des autres chapitres pour t'oxygéner la tête, c'est pas du tout pareil. Tu reviens avec un œil neuf sur ton deuxième chapitre et pareil pour le troisième. Donc, tout ça fait que c'est complètement chaotique. Je m'interdis pas d'improviser parce que, à plus forte raison, je ne sais pas toujours ce que je vais trouver en relisant les sources que je cherche. Mais globalement, il y a effectivement une organisation. Voilà.
Donc, quelle est ta méthode en fait pour avancer tes projets, tes différents projets de bouquins sans te perdre et surtout en fait pour garder ta motivation sur chacun des livres?
Ça serait sensiblement ce que je viens de te dire pour l'intérieur du projet Kirby Sphere. Là, c'est un peu particulier parce que j'ai tout concentré ces dernières semaines sur ce projet-là pour le faire et que ça sorte, quoi. Voilà, quoi. Mais globalement, en général, quand j'ai pas une pression de deadline, j'avance entre deux missions. Quand on me demande des pitches pour des magazines ou des interventions dans des médiathèques ou des choses comme ça, quand il y a des bouts de semaine où je suis un peu tranquille, j'avance ces projets de bouquins. Et je les avance, ça aussi, dans une combinaison d'ordre et de désordre. C'est-à-dire que je vais avancer tel bouquin, et puis à un moment, le poser, pas forcer, parce que ce n'est pas la peine de forcer si c'est pour que ça devienne une corvée, et passer sur un autre. Ce qui fait qu'en général, d'une certaine manière, ça m'oxygène la tête, on va dire. Voilà, il y a toujours un moyen. Et puis des fois, d'ailleurs, le hasard fait qu'en bossant sur un autre projet, tu tombes sur une source que tu n'aurais pas cherché consciemment, mais qui te ramène au projet d'avant. Et ce qui fait que tu y retournes avec cette nouvelle source. Donc c'est une manière de brasser beaucoup de données. Alors bien entendu, des fois, tu te dis, bah, du coup, oui, mais finalement, je pourrais sortir des bouquins beaucoup plus vite si j'en avançais pas plusieurs d'un côté. Mais la vitesse, c'est pas tout. Y a un moment, je pense que une de mes cartes de visite, c'est un petit peu le type de recherche atypique que je fais. Donc, faut que je me laisse le temps de faire ces recherches-là. Et pour les faire de manière un petit peu tranquille et pas monomaniaque, parce qu'il y a aussi un problème, hein, si tu recherches toujours le même sujet pendant des mois et des mois, il y a un moment où tu quittes un peu la planète Terre et tu oublies ce qui est susceptible d'intéresser tes lecteurs ou pas. Le truc, c'est d'alterner les sujets et de voir un peu la pomme qui mûrit le plus vite, quoi.
Combien de temps, en gros, t'as pris l'écriture de Kirby Sphere, alors, du coup?
Ah mais là, alors là, du coup, tu me poses une colle. Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là, parce qu'il y a des moments où, je t'expliquais tout à l'heure qu'il y avait des chapitres de Kirby Sphere qui sont nés dans la rédaction de cette rubrique qui s'appelait Disabled Goodies. Et quand j'ai initié cette rubrique-là, j'avais aucune idée à l'époque que j'allais faire Kirby Sphere. Donc, j'ai pas noté les curseurs, et d'une certaine manière, il y a sans doute certains chapitres qui ont été écrits il y a 10 ans. Mais à une époque où ils ne faisaient pas partie d'un projet cohérent. On va dire que là, tu vois, je t'ai parlé de 600 000 caractères début juin, début juin, quand j'ai ressorti un peu plus de 600 000, pas tout à fait 700, quand j'ai ressorti le projet et que j'ai dit bon coup, on y va, et on arrive à 100 millions de caractères là. Donc c'est d'une certaine manière, c'est beaucoup, parce que j'ai mis les bouchées doubles, parce que ça il y a un moment, il y avait une envie aussi de passer outre les emmerdes de ces dernières semaines, et donc j'ai pour le coup j'ai écrit très vite toute une partie du bouquin.
Est-ce que tu as eu l'occasion de présenter ce projet à la famille de Jack Kirby?
Non, pas du tout, parce que c'est pas une bio. Si je faisais une bio, la toute première démarche, ça serait d'aller voir la famille. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui parle du travail de Kirby à travers le travail de Kirby, et ça c'est une étude documentaire. Donc, il y a aussi des choses qui, comment dire, il y a des limites aussi à la proximité que tu peux avoir quelque part avec la famille des auteurs. C'est une démarche que j'avais quand j'ai fait mon bouquin sur les super-héros français, parce que je voulais aller retrouver des anecdotes, et il n'y avait que pratiquement qu'à travers la mémoire familiale que je pouvais trouver ces choses-là. En plus, ça me permettait de retrouver, de reconstruire des ponts un petit peu avec certains événements qui sont pas documentés ailleurs, puisque là, j'étais vraiment dans une recherche où il y a dans les super-héros français, si tu te lances là-dessus pour faire un bouquin, en dehors de quelque chose, quelques personnages bien connus comme Micros et Photonique, on va dire que si tu commences à creuser avant, c'est une discipline qui est tellement enfouie sous le tapis que tu sais même pas quels vont être tes outils de recherche. Donc fondamentalement, aller vers du vécu, aller comment dire, demander le ressenti des uns et des autres, ça fait partie de l'exercice. Là, on parle pas de la vie de Kirby, on parle vraiment de choses qu'il a lues, qui l'ont inspiré, des trucs comme ça. Et je crois que il y a des moments quand tu fais des bouquins, par exemple historiques, si tu veux écrire l'histoire de Napoléon, je suis pas sûr que si tu veux écrire l'histoire de Napoléon, la meilleure méthode historique, ça soit d'aller demander l'avis de la famille de Napoléon. Parce que tu auras un point de vue, c'est certain, tu auras un témoignage, mais est-ce que tu auras finalement des faits, des dates ou des choses comme ça? C'est un autre exercice. Donc voilà. En plus, j'ai pas, je vais pas utiliser des crayonnés ou des choses comme ça dans ce bouquin. Ça va vraiment être de la repro de couverture que finalement tout le monde a. Simplement, moi, j'explique quel est le contexte de ces images ou de, je dis couverture, mais il y a aussi quelques splashs. Donc, il y a vraiment, bien entendu, si j'avais utilisé du matériel qui appartient à Kirby, c'est-à-dire le matériel imprimé, c'est le truc des éditeurs, mais si j'avais utilisé ce truc-là, j'aurais été vers la famille, ne serait-ce que pour avoir l'autorisation, mais ça, je n'ai pas non plus cette utilité-là, et donc il n'y avait pas de raison d'aller vers cette pratique-là, parce que sinon, après, ça complique tout, parce que si tu dis, je vais demander à la famille de Kirby, bah, il y a des endroits, à des moments où je raconte un petit peu le pour et le contre de certaines anecdotes, et pour des épisodes, hein, par exemple, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu parles du fameux Mister Miracle où Jack Kirby ridiculise Stanley, qu'est-ce que je fais? Bah, si je vais au fond de la logique, je vais demander à la famille de Stanley.
Oui, si tu es
On ne
obligé
sort
d'aller
plus.
voir chaque héritier ou chaque
Et
ouais.
c'est surtout que du coup, tu en reviens à faire une biographie par la fenêtre.
Tout à fait. Je
Et c'est vraiment pas mon exercice. Donc non, honnêtement, voilà, c'est pas que je l'ai snobé ou que je me suis dit, oh, faut surtout pas que j'aille en parler, mais simplement c'est pas cet exercice-là.
Je fais juste un petit détour par ce dont tu parlais pour les super-héros français. Est-ce qu'il t'est arrivé lors de tes recherches d'aller vers des familles qui ignoraient même complètement que quelqu'un dans leur famille avait pu travailler sur des super-héros ou avait pu travailler sur comment dire, de la pop culture bien avant l'heure?
Deux fois, au moins deux fois. Il y a eu une dame qui, son père, et ben elle savait pas qu'il avait dessiné de la BD. Elle savait qu'il en avait écrit, mais elle savait pas qu'il en avait dessiné. Et donc je lui ai fait passer les planches. Et il y a une autre personne, pareil, c'était pour son père. Et elle était convaincue que son père avait commencé à faire de la BD à telle date. Et moi, j'ai commencé à la contacter pour dire, bah non, moi, je voudrais vous parler de telle date. Elle m'a dit, vous vous trompez. Et c'est pareil, j'ai fourni les planches avec les signatures. Et c'était, je sais pas, 4 ou 5 ans avant l'époque où elle pensait que son père avait commencé la bande dessinée. Et elle avait jamais vu ce personnage-là et ces planches-là. Donc, pour tout dire, pour ceux qui ont lu le bouquin, c'était la famille du créateur, du dessinateur, Rémi Bourlès, qui a créé le dernier super-héros apparu pendant l'occupation qui s'appelait Homo le super-robot. C'est un nom qui a survécu bizarrement à l'épreuve du temps, mais qui était assez joliment dessiné. Et la mémoire familiale n'avait pas gardé la trace de ce personnage-là.
Et du coup, ça te place dans une position assez curieuse où tu viens en fait ranimer une histoire de famille, en fait.
Un petit peu, mais c'est pareil. Si tu regardes bien, je me suis assez peu servi de, je me suis assez peu servi de cet argument-là dans le bouquin. Par contre, moi, je tenais à aller sur place, c'est-à-dire autant que possible, me déplacer. Quand j'ai rencontré la famille des fondateurs de Heidi Artima, je suis monté les voir en Belgique. Et en repassant, je me suis arrêté à Tourcoing. Et là où il y avait les sièges, et j'ai passé une demi-journée dans les rues à retrouver toutes les adresses, à demander au propriétaire actuel si je pouvais rentrer, prendre des photos pour voir des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, et c'est pas des choses que j'ai marquées telles quelles ou que j'ai utilisées telles quelles dans le bouquin, parce qu'après, quand tu rencontres des autres acteurs de cette histoire-là, et que le gars te dit ah ben oui, mais on n'était pas beaucoup, et tu dis, mais attendez, j'ai été dans le truc, c'est gigantesque, il y avait quand même pas mal de gens. Et la personne voit que tu connais, enfin, te dit, ah oui, c'est vrai, on était 160 et tout ça, ah oui, d'accord, et c'est pas du tout la même relation. Les gens, ils voient que tu t'es intéressé au point d'aller voir. Il y avait quelqu'un qui était un petit peu connu pour refuser les interviews et les choses comme ça. J'ai été le voir et le type, parce que j'ai pris le train et que je suis descendu le voir en pleine semaine où j'ai fait, je sais plus. J'avais fait 3 heures de train pour aller le voir. Le gars, ça a tout débloqué, quoi. C'est-à-dire que le gars était, vous voyez que le truc, ça m'intéressait, quoi. Donc, cette démarche-là, elle est encore autre. Alors que là, honnêtement, j'ai pas cette prétention-là. Le travail sur ce bouquin-là, c'est vraiment de dire que, en tirant sur le fil de la pelote, comme je disais tout à l'heure. Ça va t'amener vers des bouquins dont tu sais, pour certains, tu sais pertinemment que Jack Kirby les a lus. Parfois, il y a des témoignages de ça. Parfois, le titre de l'épisode, c'est carrément le titre du bouquin.
Oui, c'est même pas embarrassé à dissimuler la source, quoi.
Mais je pense parce qu'il n'a pas envie. Aujourd'hui, on te dirait que Jack Kirby est un geek de science-fiction, c'est un lecteur boulimique. Donc, il cache pas son truc. Il met plutôt un truc genre un peu à qui veut comprendre. Hey, tu m'as compris.
Ouais, c'est un clin d'œil, quoi.
C'est un clin d'œil. Donc, et une fois encore, je te dis, quand par un effet de billard à trois bandes, tu vas chercher chez une fois que tu as compris que tel auteur, Kirby l'a utilisé non pas une fois, non pas deux fois, non pas quatre fois, mais 6 fois, 7 fois, tu te dis, ça vaut le coup que j'aille voir un petit peu ce que le gars a écrit d'autre, et vlatis pas que je vais trouver quelque chose qui ressemble étrangement au résumé d'un épisode que j'ai déjà lu. Voilà. Donc c'est plus un travail de recomposition du puzzle. Tu vois ce que je veux dire?
Parmi en fait les différents éléments, les différentes sources d'inspiration que tu as relevées de Jack Kirby, est-ce qu'il y en a une qui t'a surprise?
Tu veux dire par l'auteur, par la source, par le c'est pas tellement ça. C'est plus que des fois. Tu te rends compte en creusant la source en question, en la ramenant à ses composantes de base, de départ, que tu ignorais, que ça correspond à plusieurs épisodes. Et tu te rends compte que finalement, tu t'es fait refiler par Kirby à 2, 3 ans d'écart, la même histoire, mais que tu n'avais jamais réalisé que c'était la même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas de dire ah, comment il s'est inspiré de tel auteur, j'aurais pas cru. Non, parce que globalement, la science-fiction des années 30, 40, 50, elle est assez balisée. Tu sais ce que c'est. Et en plus, il y a un certain nombre d'auteurs qui étaient eux-mêmes en cheville avec les comics. Donc, les noms, globalement, ils sont connus. Après, la manière dont ça s'articule, la manière dont tu découvres que finalement, les déviants et les éternels, ben non, en fait, ils sont apparus 20 ans, 30 ans avant que toi tu lises le premier numéro des Eternals. C'est assez marrant. C'est assez marrant.
Ouais, c'est sa capacité en fait à proposer en fait peut-être les mêmes éléments mais de manière différente et finalement ce côté tour de passe-passe quoi.
C'est comme des pièces de Lego. Et donc, et je pense, j'espère, en tout cas, c'est un peu le truc que je me suis fixé, c'est que. Alors, par contre, faut parler un petit peu de la forme. Ça veut dire que mes chapitres, c'est vraiment raconter l'histoire. Moi, je compare ça un petit peu à la version commentée d'un DVD. C'est-à-dire que je raconte vraiment ce qui s'est passé dans l'épisode. Ça peut un peu déstabiliser les gens. Mais c'est une
Comment
manière
ça?
aussi.
Comment ça? C'est-à-dire comment ça peut déstabiliser les gens?
Là, parce que tu as des gens qui, quand ils lisent des bouquins d'analyse, veulent l'analyse, mais pas l'histoire qui en analyse. Tu comprends ce que je veux dire?
D'accord, ok.
Tu as des gens qui ne sont pas très fans de ce truc-là. Par contre, moi, je pense que dans le cas précis, dans cet exercice-là, ça m'est nécessaire parce que ça veut dire que du coup, en décomposant ça, ça me permet de mettre sur le même pied d'égalité d'abord une histoire que tu as lue et une histoire que tu n'as pas lue. Et puis une histoire qui a été faite par Kirby en 39 ou en 40. Du coup, en la racontant en mode textuel, je lui donne un petit peu le, je lui enlève son côté daté pour la mettre sur un pied d'égalité avec ce que tu appelles dans un épisode des Fantastiques ou des New Gods. C'est ça, ça me permet de faire ça, quoi.
Finalement, c'est un peu ce que tu as fait dans un article sur Comic Box par rapport à Avengers 4. D'ailleurs, un article qui est mis en lien
Ah mais
sur la page Ulule, où tu
c'est
reprends en fait
exactement
l'épisode.
C'est exactement ça, et c'est un peu, c'est vraiment pour moi un épisode très représentatif de ce que je fais. Et d'ailleurs, cet article-là, il est dans le bouquin. Il y a à peu près 2 tiers de bouquins qui viennent de chroniques qui étaient parues sur le site, mais que j'ai retravaillé, d'abord écrit en partie, et puis changé, rajouté des sources que j'ai trouvées entre-temps, rajouté des notes. Mais globalement, effectivement, le fait de prendre Avenger 4 et de le décomposer pour expliquer d'abord comment et pourquoi Captain America est revenu dans l'équation avant Avenger 4. Pourquoi finalement, quand tu regardes le thème de la méduse, il est omniprésent dans Avenger 4, ok, mais aussi dans la création de Captain America. Tout ça, ça ne met possible qu'en racontant l'histoire, parce que sinon, si je disais simplement en quelques lignes assassines, alors vous savez, en fait, Captain America, son costume, il est basé sur tel mythe grec. Si j'étaye pas la chose, si je raconte pas la chose, la terre entière va dire, Fournier, il est complètement sous, il raconte n'importe quoi avec des espèces d'arguments d'autorité, et puis voilà. Non, il faut que je montre bien à quel moment ça prend forme et pourquoi ça prend forme.
Tout à fait.
Après, on est d'accord ou pas avec moi, mais j'ai étayé le propos.
Le fait de reprendre l'histoire permet aussi de ne pas avoir à lire le livre et en même temps de basculer vers le bouquin, vers le comics, pour revenir vers le livre pour lire l'analyse. Là, au moins, on a quelque chose qui coule de source en source.
Alors bon, j'ai juste un petit bémol avec ce que tu dis, c'est que non, j'espère quand même que les gens,
Oui,
au
bien
contraire,
sûr. Mais ça déjà.
ils vont prendre la
Bien
BD et dire,
sûr.
attends, moi j'avais pas vu ça, qu'est-ce qu'il raconte
Ouais, tout à
Fournier? Et
fait.
puis
Mais il n'y a pas
voilà.
besoin de jongler entre deux ouvrages pour pouvoir suivre. C'est-à-dire que tout est réuni dans un seul livre. Et évidemment, l'idée, c'est d'amener les gens à relire ou redécouvrir l'histoire d'origine par la suite. Revenons un petit peu à Kirby Sphere. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire dans ce livre, mais qui n'a pas abouti?
Pour l'instant, non. Si ce n'est que par la force des choses, tu ne peux pas tout mettre. Et je pense que les gens vont être un peu surpris de la sélection des épisodes que j'ai pris, parce que on a parlé un petit peu de moi j'ai mis en exemple sur la page de financement cette chronique de Avengers 4, et on va dire que c'est un peu incontrôlable la résurrection de Captain America. Ok, mais par exemple, y a pas je ne fais aucun chapitre sur la création des X-Men. Ou d'autres personnages. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un moment où tu ne peux pas mettre 50 chapitres. Il y a un moment où faut rester un petit peu faut rester un petit peu cohérent quand même dans la pagination. Et puis parce que j'ai trouvé que c'était intéressant d'alterner des épisodes connus des lecteurs français et des épisodes pas très connus des lecteurs de comics tout court d'ailleurs parfois parce que si t'as comment te dire ça ça t'explique aussi que ces épisodes-là comptent aussi dans la carrière de l'auteur. Tu comprends ce que je veux dire? Le jour où il les a fait, il s'est pas dit celui-là va marcher, celui-là va pas marcher. Il les a fait avec la même application et avec les mêmes sources parfois. Ce qui fait que tu te rends compte que tel épisode, tel héros pas très connu devient le laboratoire d'un autre personnage que bien sûr t'as lu pendant des années sans savoir qu'il avait un prologue. Donc ça aussi, ça me sert un peu à décomposer l'ADN de Kirby. Et si je m'étais contenté de dire, on va prendre le premier épisode des Fantastiques, on va prendre le premier épisode de Captain America Comics, on va prendre le premier épisode des X-Men, ouais, je te refais ce Trans Spécial Origine, c'est super, tout le monde écrase sa petite larme avec la petite nostalgie et compagnie. Mais il y a un moment où fondamentalement, il y a des personnages pas autant connus, mais qui sont quand même pertinents, qui ont des chose à dire, et le fait nous-mêmes qu'on se replonge sur ces personnages-là qui sont pas connus nous permet de les regarder sans le filtre de la nostalgie et de voir sans doute certaines choses qu'on n'aurait pas vues si je les avais appliquées sur les X-Men. À plus forte raison, je pense que les X-Men, après m'être penché sur le cas, je pense qu'il y a quand même une influence de Stan Lee quelque part là-dessus, et que même si Kirby a beaucoup œuvré, même si là aussi hein, il y a un travail de source qui est intéressant, on est sur quelque chose qui est déjà un peu hybride. Et j'en sais rien, si demain je fais un bouquin sur les mutants, peut-être que bien entendu que je parlerai des X-Men, de la manière dont ça a été créé, mais pour le coup, je me suis dit, ça faut mieux laisser peut-être de la place à d'autres histoires.
Toujours par rapport à Kirby Sphere, une question qui nous intéressait à la rédaction de Top Comics, c'était de savoir pourquoi passer par un financement participatif, pardon, et pourquoi ne pas une sortie directe chez un éditeur, comme c'était le cas pour tes précédents livres?
Alors, la réponse, elle est en deux temps. D'abord, précisément, je me suis accoquiné quand même avec un éditeur sur ce financement qui est Jean-Christophe Corrette, qui va m'aider parce qu'il va avoir un job très important. Il va s'occuper de la tendance de ce truc-là. Ça veut dire que la mise en enveloppe des bonus et des trucs comme ça, tout ça, c'est quelque chose dont il a les compétences et qu'il sait faire. Et ça va beaucoup m'aider parce que moi, ça permet de me concentrer sur l'écriture. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a quand même une case éditeur dans le truc. Mais là où tu as effectivement raison, c'est que le projet, il est financé par Ulule parce que je ne travaille pas de la même manière que sur mes autres livres avec des éditeurs traditionnels. Pourquoi? Parce que quand tu as un éditeur classique, tu as cet avantage-là, il y a plein d'avantages. Alors, un éditeur classique, qui est que c'est ton premier lecteur et qui va te dire, bah ça, peut-être que les gens vont pas suivre et trucs comme ça. Moi, depuis le début de la petite graine de ces bouquins-là, née de la gestation de Lisbeth Goodies, je sais que pour moi, c'est des bouquins qui ne font pas de. J'allais dire qu'ils ne font pas de compromis, mais c'est un peu un truc un peu violent, qui visent le public des comics. Et si je, alors tout en sachant que quand je dis ça, attention, hein, je pense qu'il y a des bouts de chapitres entiers qui vont sans doute vous permettre de comprendre certaines scènes, par exemple de Guardians of the Galaxy, où vous pensez que c'est iconoclaste et en fait il y a un putain de rapport avec, j'ai dit putain, c'est grave, non, il y a un gros rapport, un énorme rapport avec certaines inspirations. Il y a un travail d'analyse qu'on ne capte pas toujours avec certaines inspirations de Kirby. Mais bref, pour moi, ces bouquins-là visent un public ciblé, un public de lecteurs de comics, comment dire, qui l'assument et qui vont à fond dans le truc. Et si j'étais passé par un éditeur classique, je pense qu'on m'aurait dit, bah oui, mais là justement, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, ah oui, mais tu crois pas quand même que tu devrais pas parler un peu d'X-Men ou des choses comme ça. Donc fondamentalement, c'est pas du tout que je crache dans la soupe, c'est pas du tout que je dis que je ne ferai jamais plus de bouquins avec des éditeurs et trucs comme ça, mais là on est dans le registre d'un essai, et on sait que les essais comme ça avec des bouquins un peu qui sont pas des beaux livres avec des 36 000 pages en couleur ou des choses comme ça, je sais qu'on vise un public spécialisé, pas forcément spécialiste d'ailleurs, mais en tout cas un public qui est prêt, qui est OK pour s'envoyer 400 pages dans la figure sur un sujet pointu, et que du coup, c'était sans doute pas la peine de passer par le filtre d'un éditeur classique pour que ça complique les choses. Et je me suis dit en plus que sur un sujet spécialisé comme ça, les réseaux de distribution, elle n'est pas forcément savoir le gérer, et que donc il fallait mieux faire ça entre nous, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai qu'avec le concours de Jean-Christophe Corrette, il y aura quelques mois après la sortie du livre, il y aura une version librairie dans laquelle les petits malins qui se disent ah ben je prends la version librairie, ok, mais tu n'auras pas les bonus, faut les pas déconner non plus. voilà, et il y aura une petite sortie librairie sans doute, enfin non, une sortie. Ça, c'est sûr, mais qui sera sans doute minime, une sorte de truc qui permettra finalement de toucher des gens qui ne vont pas sur les financements participatifs. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment concevoir autant qu'on peut ce bouquin-là par l'entremise de cette campagne, et faire quelque chose qui normalement n'aurait pas sa place dans une tête de gondole de la FNAC.
Alors, parmi les bonus de cette campagne de financement participatif, j'ai vu qu'il y avait aussi un podcast consacré aux dernières années de Stan Lee. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
En fait, il y a deux choses. Il y avait un truc que j'avais commencé de travailler avant même la disparition de Stan Lee, qui était que j'avais remonté des pistes que je trouve intéressantes sur ces dernières années, qui éclairent un petit peu des micro-scandales qui ont pu secouer des trucs, quand on se demandait si c'était tel assistant ou tel autre qui l'en papaouté, ben j'ai commencé à creuser un peu pour savoir qui étaient ses assistants, pour savoir ce que Stan Lee avait créé ou ce qu'il n'avait pas créé. Et j'ai finalement reconstitué quelque chose qui a vraiment la gueule d'une enquête, et qu'à un moment, je m'étais dit que je mettrais sans doute sur le site de Comic Box. C'était quelque chose qui, en gros, avait la même longueur que certaines de mes chroniques de Goodies. Donc, c'était vraiment pour parler un peu technique, c'était un article longue forme, pour ceux qui connaissent. Et puis, d'abord, j'avais beau savoir qu'il avait 95 ans, le trépas de Stan Lee est arrivé à un moment où j'avais pas fini cette enquête-là, et où même d'ailleurs, où j'étais un peu pris de court, parce que à l'époque du décès de Stan Lee, il y a tellement eu de demandes de médias pour parler de Stan Lee, qu'à un moment, moi, je refilais certains plans à des copains parce que j'avais plus à répondre à tout et que j'avais pas que ça à faire non plus. Fallait un peu faire tourner la marmite. Donc, à un moment, j'avais cette enquête-là où je m'étais dit, il faudra quand même que je la fasse. Et je me suis rendu compte que j'avais un souci qui était qu'il y avait des questions de droit à l'image de ces personnes-là. C'est-à-dire que s'il fallait que je chope des faux, si j'avais j'illustre ces recherches, ça devenait un petit peu compliqué. Parce que quand tu sors des informations qui sont pas forcément très glorieuses sur certaines personnes, même si c'est en français et qu'ils sont américains, c'est un peu bien d'être blindé et de pas sortir n'importe quoi. Voilà, quoi. Tu sais que tu peux avoir des embrouilles. Donc, il y avait un problème d'illustration sur cet article-là. Je me suis demandé à un moment si j'allais pas essayer de le caser dans un magazine, des trucs comme ça, mais de toute façon, je voyais pas comment l'illustrer. Et quand est venu le moment de cette campagne-là, bon, bah, y a pas de secret. Quand tu fais une campagne Ulule, tu sais qu'il y a ton cœur de cible qui est ton projet en lui-même, l'objet, en l'occurrence le livre, pour ce qui me concerne. Mais tu sais que tu as à chaque fois une sorte de petit access qui est une prime inférieure, où les gens qui n'ont pas la volonté ou les moyens, par les temps qui courent, ça peut se comprendre d'acheter de participer à un truc, mais qui veulent quand même mettre quelque chose de symbolique. T'as toujours un palier en dessous, et souvent c'est genre, ben, on vous fera des bisous et voilà, et vous nous avez aidé. Alors attention, parce que je sais que c'est une phrase qui est super utilisée sur plein de financements participatifs, donc je ne vise personne quand je dis ça, tellement c'est généralisé, cette expression-là. Je le dis tout de suite parce que je voudrais pas que des gens disent, ah, comment ils parlent de nous? Non. Et voilà. Bref. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai cette enquête-là qui dort. Et je me dis, j'aimerais bien que symboliquement, même les types qui vont repartir sans le bouquin, ils repartent pas les mains vides. Et en fin de compte, est née cette idée de transformer l'enquête autour des dernières années de Stan Lee. Franchement, j'ai un petit peu suivi les affaires. Je crois, il y a certains trucs que j'ai sortis qui sont un petit peu pas graveleux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, il y a des informations que j'ai pas vues ailleurs. Et je me suis dit, sortons-le. C'est un podcast, donc ça va prendre le temps que je fasse le podcast un peu sérieusement, avec de la musique d'intro, des trucs comme ça. Je vais voir, mais ça permettra d'abord, pour moi, j'aime bien que mon travail vive, et donc ça permettra à cette recherche-là d'avoir un débouché. Et puis ça me permettra que bah, personne ne reparte les mains vides, et ça me plaît bien. Voilà.
Alors pour rester sur Stan Lee et notamment son rapport avec Jack Kirby, on sait que Kirby a quitté Marvel donc deux fois, et notamment la première autour de
Alors,
45-46.
je
Pareil, je
objection, votre honneur.
Allons-y.
Jack Kirby a quitté Marvel 3 fois.
C'est tout le problème de parler aux spécialistes.
Mais je comprends, effectivement, parce que pour plein de gens, finalement, la troisième fois, il y a plein de Marvelophiles pour qui la troisième fois ne compte pas, c'est une fin de carrière, mais Jack Kirby a quitté Marvel vers 41-42, puis il est revenu plus tard dans les années 50, et enfin, il a quitté Marvel vers la fin des années, vers la jonction de 69-70, et à nouveau, quelques années plus tard, fin des années 80, il a quitté une troisième fois Marvel pour continuer de travailler ailleurs. Mais souvent, comme c'est une production qui n'a pas été publiée en France, bah pour plein de gens, la fin de carrière de Stan Lee, elle se pose un petit peu sur des séries comme Devil Dinosaur ou des choses comme ça. Voilà. Donc la troisième est invisible pour plein de gens, mais elle existe.
Alors, je reviens
Ça,
sur
c'est pour remettre le truc, effectivement.
la...
T'avais des choses à rajouter sur ta question, je t'ai coupé.
Exactement. Alors, ouais, la question se portait sur sur son premier départ, donc dans les années 40, où la légende raconte qu'il aurait promis de casser la gueule à Stan Lee. Et donc, ma question, est-ce que toi, tu sais, est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle il est revenu ensuite par la suite, alors que manifestement, il y avait quand même de gros, gros problèmes relationnels avec Stan Lee?
Plusieurs choses. D'abord, le vrai problème de Joe Simon et Jack Kirby avec. Alors là, on est parti dans un registre complètement biographique. Hein. Mais le vrai problème de Joe Simon et Jack Kirby avec Marvel, Timely à l'époque, comme on disait, c'est que Martin Goodman, le propriétaire de Marvel, leur avait promis un certain intéressement sur les ventes de Captain America qu'ils n'ont jamais touché. Ne voyant pas cet argent venir, ils se sont sentis un petit peu libres de faire tout ce qu'ils voulaient dans le dos de Martin Goodman. Et il y a même un moment où ils ont loué une salle, une pièce dans un hôtel pour finalement, après le boulot, continuer ensemble à produire des BD, comme par exemple un épisode du Captain Marvel Shazam qu'ils ont produit dans le dos de Martin Goodman, alors qu'en théorie, ils étaient plus ou moins exclusifs à ce moment-là. Dans les faits, il n'y a pas vraiment de contrat qui disait exclusif, mais ils avaient une sorte d'obligation comme ça. La légende, alors quand je dis légende, pardon, c'est que. On ne sait pas à quel point c'est vrai ou pas, mais dans les détails, mais le truc voudrait que Martin Goodman soit douté quand même qu'il y avait quelque chose et demander à Stan Lee de les suivre. On raconte un peu comme un vaudeville, alors je ne sais pas à quel degré c'est vrai ou pas, que Stan Lee aurait surpris Joe Simon et Jack Kirby en train de travailler dans cette pièce-là, et les deux autres lui auraient fait promettre de ne rien répéter à Martin Goodman. Donc tout ça se. Tout ça se présente un petit peu comme une scène de théâtre, hein, c'est un véritable vaudeville. Alors on surjoue les choses. Ça, c'est dans la forme, dans le détail, ça s'est peut-être pas vraiment passé comme ça, mais en gros, d'une manière ou d'une autre, Stanley est tombé sur le fait que les deux autres faisaient des extras pour la concurrence, et Simon et Kirby auraient fait jurer à Stanley de ne pas répéter ça à Martin Goodman. Bon, et bien entendu, dans la tradition des lecteurs de comics, ce salaud de Stan Lee a tout été répété à Martin Goodman, ou le méchant, ou le salaud. Il se trouve quand même que, il faut rappeler que Stan Lee était le cousin par alliance de Martin Goodman, que c'était sa famille, la famille de Stan Lee qui l'embauchait. Hein. Martin Goodman était marié à la cousine de Stan Lee, et Stan Lee avait été embauché dans la boîte par son oncle qui travaillait aussi. Donc on est vraiment dans une société. Donc fondamentalement, si toi demain tu trouves un des employés de ton cousin en train de faire des enfants dans le dos, au truc comme voilà, il y a des chances que tu le dises à ton cousin. Et une fois qu'on a mis un petit peu ce truc dans l'équation, moi, je peux arriver à comprendre que Stan Lee, bah, il y a un moment, choisir entre deux employés que tu connais depuis un an et demi et ta famille, tu choisis ta famille. Le vrai méchant de l'histoire, pour moi, c'est sans doute Martin Goodman qui finalement a jamais payé les intéressements dus à Joe Simon et Jack Kirby, ce qui a fait qu'ils ont claqué la porte et qu'ils sont allés chez DC. Et je veux bien croire que Kirby, se sentant un petit peu démasqué par Stan Lee, lui aurait agité un poing vengeur en disant si je te recroise, ça va se passer comme ça. Mais le vrai méchant de l'histoire, et c'est pour ça qu'après, tu vois. vois dans les dans la biographie de Joe Simon, par exemple, qu'ils ont fréquenté Stan Lee sans problème dans les années suivantes. Le vrai méchant de l'histoire, c'était celui qui tenait les cordons de la bourse chez Time Lee, c'était Martin Goodman. Ça, c'est pour le premier départ de chez Marvel. On est parti pour une réponse qui prend 5 minutes quand même. Le deuxième truc, c'est que dans les années 50, ben, à un moment, Joe Simon et Jack Kirby, ils ont leur propre boîte, ils ont leur propre studio, ils emploient des artistes qui font travailler. Et il y a un moment, en particulier avec toutes les polémiques qu'il y a autour des comics, qui fait que certains distributeurs refusent de continuer d'en vendre. Enfin, il y a des trucs assez particuliers. C'est la même période qui a causé un petit peu la disparition des fameux C-Comics. Et donc, à un moment, rattrapé par ces difficultés-là, Joe Simon et Jack Kirby sont obligés de planter la société. Et quand je dis planter la société, c'est finalement jamais qu'un dépôt de bilan, enfin l'équivalent américain d'un dépôt de bilan. Et ils ont laissé sur le carreau un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas pu payer. Jack Kirby s'est mis à travailler pour un petit peu tout ce qu'il pouvait trouver comme éditeur à ce moment-là. Donc, il a travaillé à la fois pour DC Comics, où il a fait du Green Arrow, par exemple. C'est lui qui a réinventé c'est lui qui a co-créé l'épisode qui réinvente l'origine de Green Arrow sur une île déserte. Il a travaillé un petit peu pour Harvey Comics, et a travaillé un petit peu pour Marvel, parce que finalement, il cherchait de l'argent où il y en avait. Jean de Pelé le raconte assez bien, d'ailleurs, dans sa détail dans sa biographie, quand il raconte qu'en plus, c'était assez bizarre comme ambiance, parce que Jack Kirby se retrouvait chez Marvel à travailler avec des dessinateurs qu'il avait lui-même, par la force des choses, planté quelques mois auparavant. Et l'arrivée de Jack Kirby chez Marvel, c'est pas passé forcément de manière super amicale, parce que ça grinçait un peu des dents. Il se trouve que là aussi, il y a un méchant de l'histoire qui n'est pas celui qu'on croit. Il y a un moment, un des patrons de DC Comics se voit proposer l'idée de faire un strip dans la presse américaine, un strip qui parle d'astronautes. Et plutôt que rapporter l'idée à DC Comics et que ça soit jamais qu'un deal de plus, ce gars-là, qui s'appelle Jack Schiff, se dit « on va le sous-traiter, on va le faire en direct ». Et l'argent va pas aller chez DC. Enfin, DC s'appelait pas comme ça s'appelait encore National Decal à l'époque. Mais voilà, Jack Schiff se dit, on va pas faire passer ça par la boîte, on va le faire passer directement par nous. Il va voir Jack Kirby et un scénariste qui s'appelle Dave Wood. Il leur fait profiter du plan. Ensemble, les deux créent une série qui s'appelle les Sky Masters, un strip qui va être publié en France d'ailleurs bientôt par Comics Initiative. Et là, se passe un problème, c'est que Jack Schiff revient les voir en disant « Bah, elle est où ma com ?»« Bah, comment ça une com ?»« Bah, je veux 4%. » Donc, eux pensent que Jack Schiff veut un 4% sur la signature du contrat. Et Jack Schiff fait « Non, non, en fait, je veux un pourcentage sur chaque épisode que vous publiez. Tout le long de la série, tant qu'elle durera, je veux toucher un certain pourcentage. Et d'ailleurs, j'ai changé d'avis, je veux plus que 4%. » Et Jack Kirby est pas d'accord pour lui payer ce truc-là. Il était d'accord pour une petite commission au départ, mais pas pour quelque chose qui soit un fil à la patte comme ça pendant toute la vie de la série. Ça va dégénérer. Jack Schiff va faire un procès à Kirby. En fait, tous les propriétaires, tous les pontes, tous les éditeurs principaux de DC vont défiler dans ce procès-là et prendre bien entendu le parti de Jack Schiff. Et par la force des choses, en gros, alors, suivant les chroniqueurs, il y en a qui vous disent ce que Jack Kirby, voyant ça, a quitté DC. Mais dans la pratique, en gros, avec ce procès-là, Jack Kirby perdait la toute chance de pouvoir continuer de travailler pour DC Comics. Jack Schiff lui avait déjà retiré la série Challengers des inconnus de l'inconnu que Kirby avait pourtant créé, et donc Kirby perd ce client important, et par la force des choses, avec Harvey qui périclite aussi assez rapidement, bah, il lui reste plus que Marvel. Donc il est revenu travailler avec Stan Lee, et ma foi, il a fait comme ça pour continuer de nourrir sa famille. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense que à l'époque, en tout cas au tout début des années 60, dans les relations avec Stanley, c'était pas si c'était pas, on va dire, c'est pas le type qui a montré le poing en 42 qui est revenu voir Stanley en disant si tu bouges une oreille, je vais t'en mettre une. C'était pas du tout ça, c'était quelque chose d'apaisé. Il s'était recroisé dans les années intermédiaires. C'était pas le truc. Les relations avec Goodman, elles ont toujours été un petit peu plus problématiques. À plus forte raison, parce que Goodman, dans les années 60, a recommencé à promettre des intéressements ou des choses comme ça qu'il a jamais vraiment livré à Kirby. Et sur la fin des années 60, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est que Kirby a vu ses œuvres arriver. Alors je raconte un peu en détail dans le bouquin, par contre, parce que ça joue sur certaines histoires. Mais il a vu ses œuvres, par exemple, adaptées en dessin animé. Il s'est bien rendu compte qu'il y avait de l'argent qui circulait et que cet argent ne passait pas par chez lui. Il s'est rendu compte qu'il faisait de plus en plus des histoires, chose pour laquelle il était au demeurant assez partant, hein. C'était pour lui la garantie d'avoir une autonomie, mais qu'on repassait derrière lui pour lui corriger ce qu'il supportait de plus en plus mal. Et il y a un moment, comme DC Comics lui a fait un peu les yeux doux, il est parti chez DC pour faire donc les séries genre Kamandi, les New Gods, les choses comme ça, tout en sachant que c'est DC. À nouveau, il n'a pas été bien traité parce que arrivé là-bas, on lui a dit, tu sais pas dessiner Superman, on va demander à notre dessinateur de redessiner le visage à ta place. Ce que je trouve super humiliant pour un type de sa longévité dans le métier. Enfin voilà, il n'a pas été sur la durée, il a été un peu grillé par DC, qui lui demandait de sortir beaucoup de nouvelles séries, et eux ne faisaient pas vraiment l'effort nécessaire pour les défendre. Et il est retourné à nouveau chez Marvel, parce que finalement il s'est rendu compte que chez DC c'était pas mieux. Et chez Marvel, entre-temps, il y a eu plein de choses très compliquées qui faisaient très compliquées à expliquer là dans le cadre de cette réponse qui est déjà super longue. Et je pense qu'on a endormi la moitié des gens. Mais il est reparti là-bas et finalement, il y a un moment où, lassé des comics, il s'est dit, je vais surtout essayer de recaser des dessins animés. Donc il est parti dessiner pour l'industrie du dessin animé, en particulier sur un dessin que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelait en France, Harok le barbare, hein, qui aux États-Unis s'appelait Thundar. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses des auteurs qui se revendiquent de Kirby ou bien des hommages? Alors, on pense notamment à Eric Larson ou plus récemment d'ailleurs par exemple à Tom King avec Mister Miracle. Et selon toi, en fait, qui seraient les principaux héritiers en fait de Kirby?
Y a des héritiers évidents. Qui sont effectivement, par exemple, Eric Larson, Walt Simonson. Je trouve, mais je comprends aussi pourquoi certaines personnes n'ont pas forcément aimé le. Il y a quelques personnes qui ont coincé sur le Mister Miracle de Tom King, mais je trouve que c'est vraiment une sorte de prolongation de Mister Miracle, et je trouve que c'est très intéressant. Sans chercher à être copié sur du Kirby, ils ont prolongé du Kirby à leur manière. C'est tout à fait. Il y a des analyses là-dessus qui sont assez en sous-couche de la série. Il y a des analyses sur le travail de Kirby qui sont assez intéressantes. Maintenant, moi, j'ai du mal, comment dire, avec des gens qui surjouent le truc. Tu vois aujourd'hui qu'il y a des gens, quand il faut faire du Kirby, voilà, Kirby faisait des particules d'énergie qu'on a appelées les Kirby Crackle, et t'as des gars qui disent, putain, super, j'en fous de plein le fond d'une image. En fait, j'ai fait une splash où il n'y a pas un seul décor, il n'y a rien. J'ai juste un perso qui surgit d'un fond de Kirby Crackle. Voilà. Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'en fait, quand tu fais l'effort de regarder Kirby, c'est un univers cohérent, aussi bien sur le plan scénaristique que graphique. Et quand il choisit une image, par exemple, il y a un type de transformation physique qui est souvent raconté de la même manière en trois cases. Il y a des choses comme ça, il y a trois étapes. Il y a des choses comme ça qui reviennent, il y a des trucs qui tiennent à certaines cases, et c'est pas simplement, ah, mais j'ai pris un super marqueur et j'ai déchaîné une bouche carrée, quoi. Et des fois, sur des gars qui se tapent le ventre en disant, ah, wesh, wesh, je suis l'héritier de Kirby, tu fais bon, non, 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 non. Tu peux mettre un perroquet devant Victor Hugo, il va retenir certaines phrases de Victor Hugo, mais le perroquet sera pas Victor Hugo. Voilà.
Kirby, mine de rien, n'a pas fini d'en parler parce que dernièrement, là, hier ou avant-hier, lors de la San Diego Comic-Con, Marvel a communiqué sur les prochains films du MCU. Et parmi ces films-là, on trouve Eternals. Et donc, évidemment, on risque de retrouver des éléments de Jack Kirby dans ce prochain film.
Tu trouves déjà des éléments de Jack Kirby de manière vachement plus affirmée depuis quelques années chez Marvel Studios. En gros, depuis qu'ils ont réglé leur différend avec les héritiers Kirby. Et dès le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, tu voyais déjà un Céleste en train de se servir de la pierre du pouvoir dans une sorte de flashback. Tu le vois en train de détruire une planète ou de détruire les habitants d'une planète, je crois. Et j'avais tiqué à l'époque parce que je m'étais dit, attends, il se passe un truc. Et effectivement, on avait eu à peu près en même temps le fait qu'il y avait des choses qui se jouaient autour des Eternals. Les Eternals, autant des fois sur d'autres créations, sur Hulk, sur les fantastiques, il y a des discussions de comptes d'épicier pour savoir si Stan Lee a participé à la création des personnages tout court, ou s'il a fait 15% du personnage, ou s'il a fait 25%. Il y a des trucs comme ça. Autant sur les Eternals et sur d'autres personnages comme les New Gods qui vont eux aussi bientôt normalement arriver au cinéma. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire que c'est une œuvre sans compromission avec Kirby aux commandes, qui fait ce qu'il a toujours voulu faire. Voilà, donc c'est l'univers de Jack Kirby sans compromission. Et il y a quelque chose d'un petit peu d'ailleurs étrange, mais finalement presque naturel, au fait que voilà, on a eu Avengers Endgame avec la dernière caméo en tout cas la dernière caméo de son vivant, parce qu'ils sont toujours capables de nous faire des trucs sur ordinateur ou je sais pas quoi avec Stan Lee. Il y a eu la dernière apparition de son vivant de Stan Lee dans ce film-là. C'est un petit peu la fin de l'ère Stan Lee dans ses films. Et à l'an prochain arrive finalement un film qui est entièrement basé sur l'imagination de Jack Kirby. Donc c'est quelque chose de curieux, ou finalement naturel en termes de passage de relais. Et je pense aussi que mon travail sur ce bouquin-là, pour revenir un petit peu pour rebondir entre ces films-là et Kirby Sphere, c'est aussi de montrer que dans les films du Marvel Studios qu'il y a déjà eu, il y a eu des scènes qui finalement étaient beaucoup plus kirbiesques. Ou Kirbyenne, je sais pas, vous direz comment vous préférez, mais il y a eu des scènes d'inspiration basées sur Kirby, qui n'étaient pas forcément là où on pouvait le croire, qui étaient déjà un peu en sous-marin. Donc je suis vraiment très curieux de voir comment Marvel Studios va porter à l'écran ce Kirby unplug, d'une certaine manière, même si déjà je suis un peu surpris par des annonces qu'il y a eu de casting, et je sais pas d'ailleurs si c'est des castings confirmés, parce que moi j'avais entendu parler d'un film qui reposait beaucoup sur Icaris et Circé, qui sont deux des Éternels, et apparemment pour l'instant, dans les castings que j'ai vus, Circé est pas crédité. Alors j'ai pas entièrement compris le truc, et en même temps j'ai vu passer des castings un peu bizarres sur certains des personnages. Donc je sais pas. Je pense aussi sans doute que Marvel va un petit peu avoir tendance à lorgner beaucoup sur la mini-série des Eternals par Gaiman et John Romita Jr. qui a été faite il y a quelques années, parce que à mon sens elle était un peu pensée pour ça, et ça sera sans doute un de leurs points d'entrée pour faire le film. Voilà.
Et graphiquement, visuellement, est-ce que tu vois des films qui, et pas forcément d'ailleurs que dans le MCU, qui sont d'inspiration kirbiesque, entre guillemets?
Yes, tout à fait. Il y en a un que tu as peut-être vu ou peut-être pas dans les années 80, qui est Les Maîtres de l'Univers.
Celui avec Dolph Lundgren?
Celui avec Dolph Lundgren, parce que tu vas dire, ah non, Les Maîtres de l'Univers, je connais, c'était des jouets, des dessins animés, ouais, d'accord. Mais la vérité, c'est que le gars qui a conçu le film, c'était un gars qui habitait dans le voisinage de Jack Kirby, qui était un fan de comics, qu'il a connu dans ses dernières années, et bah, tout simplement, quand on lui a proposé de faire un film sur les maîtres de l'univers, s'est dit, mais ouais, moi j'aimerais bien faire un film sur les New Gods et choses comme ça. Et quand tu regardes le film, en fait, tu te rends compte, il a lui-même confirmé après dans d'autres interviews, tu te rends compte que finalement, Musclor qui débarque sur Terre à travers des portails et des choses comme ça, c'est beaucoup plus proche de Orion qui débarque sur Terre poursuivi par Darkseid. Donc, alors, en plus, c'est un film qui a très mal vieilli, hein, mais quand tu. Alors, quand je dis ça, il y en a toujours un genre, ah, comment, non, ce film, il est parfait, il n'a pas vieilli. Il y a forcément quelque part dans Internet en train de dire ça. Mais en vérité, il a très mal vieilli. Et quand tu enlèves le vernis de trucs, tu te rends compte que finalement, une partie des personnages, bah, tu es capable un petit peu de reconnaître que c'est finalement beaucoup plus proche des New Gods en termes d'écriture que des maîtres de l'univers. Voilà.
Bah du coup, on va être quelques-uns à aller acheter le DVD des Maîtres de l'Univers pour vérifier. Xavier, est-ce que tu sais déjà quel sera ton prochain livre et sur quel sera le sujet de ton prochain livre?
Eh bien, écoute, sauf si tu as coupé ou diffusé mes remixé mes questions dans le désordre, mais a priori, j'ai déjà répondu tout à l'heure, d'une certaine manière, qui est que ce Kirby Sphere, je l'avais pas fini dans, j'avais pas envisagé dans cet ordre-là. Moi, je le voyais plutôt d'ici 1 ou 2 ans. Et j'avais un projet plus immédiat qui a été un peu contrarié sur cette histoire d'ordinateur. Et c'est clair pour moi que le bouquin que je suis en train de finir, et qui est donc Kirby Sphere, qui est toujours en financement, et que vous pouvez participer dès que vous aurez écouté cette merveilleuse interview, voire même participer en écoutant l'interview, c'est encore mieux, c'est conseillé. Donc bref, voilà, ça m'a permis de me réoxygéner la tête. Et en gros, voilà quoi, je fais ce Kirby Sphere. Il a l'air de trouver un preneur, ma foi. Il en tout cas, il devient réalisable et tant mieux. Mais du coup, ben, dans mon idée, c'est comme j'aurais eu pendant quelques mois la possibilité de penser à autre chose que les contenus que j'avais à refaire sur le projet contrarié. Dans mon idée, c'est repasser sur ce projet-là et reconstituer les quelques parties manquantes et puis le proposer dans les années à venir, voilà, dans les mois à venir, on verra.
Alors, traditionnellement, pour la dernière question de nos interviews, on pose toujours à nos invités une question en rapport avec un classement ou avec un top. Et donc, oui, on voulait en fait tout simplement savoir pour toi, quels sont allez, le top 3 des histoires de Jack Kirby, imaginées par Jack Kirby. Et on va mettre on va mettre une petite difficulté, on va enlever évidemment le quatrième monde.
Alors, c'est pas forcément une difficulté. C'est plus qu'il y a certaines choses qui sont dans le bouquin que je ne voudrais pas non plus dévoiler. Parce que le quatrième monde, finalement, il a une durée de vie dans l'œuvre de Kirby qui est beaucoup plus longue que ce qu'on pense. Alors, si tu enlèves le quatrième monde, je pense que. Je pense que j'ai un truc pour les Eternals. Parce qu'ils ont en plus, comme les New Gods d'ailleurs, ils ont ce petit côté fin torché, quoi. Ce côté on baisse le rideau, c'est fini, et c'est le dernier épisode. Ah bon, t'arrêtes ton histoire comme ça, et tu. Voilà, tu finis la série en ayant encore un appétit. Donc du coup, ça laisse gamberger l'imagination. Donc les New Gods, c'est quelque chose. Enfin les New Gods, les Eternals. Je pense que le Sandman des années 40, même si c'est assurément vieux et que c'est plutôt un truc qu'on lit quand on archive. Qu'en bouquin, en couverture dure dans les trucs américains, je pense que c'est aussi quelque chose qui est super riche, super dense, où on voit déjà plein de choses se former. Après, il y a des épisodes de ce que j'appellerais le La période un petit peu, ce qu'on pourrait qualifier de troisième quart du run des Fantastiques. Il y a en gros le. Allez, non, même plutôt vers 47. À partir du moment où tu as la création des Inhumans. Et à peu près jusqu'au moment où la chose est kidnappée par les Skrulls et finit sur une planète où il y a des Skrulls qui se prennent pour des gangsters des années 20 et où on découvre le robot Torgo qui est super classe, qui a une classe un peu à la Black Bolt. Et ce créneau-là des Fantastiques est assez particulier parce que c'est un créneau où on sait que Stanis est un peu désintéressé du truc, où Kirby est à fond les manettes. Et puis par contre, il y a un moment quand tu approches de la fin du run des Fantastiques où tu sens il a déjà un pied sur le départ, il n'y a que Marvel finalement qui ne le sait pas et où il évite un petit peu de lancer de nouvelles créations parce qu'il a pas envie d'en faire cadeau à ses bientôt futurs ex-patrons. Donc il y a sur la fin du run des Fantastiques, ça redescend. Mais cette partie-là des Fantastiques, elle est super dense. Et quand tu repointes tout ce qu'il a créé dans cette période-là, qui sont les Inhumains, Galactus, le Silver Surfer, Black Panther, le personnage qui allait devenir Adam Warlock, des trucs comme ça, c'est énorme. Il y a un truc sur lequel qui est intéressant sur le plan scénaristique, mais sur lequel j'ai plus de difficultés. C'est pour ça que je le mets pas dans ce top 3. C'est Thor, dont j'aimais bien les histoires cosmiques, mais j'ai souvent eu un problème graphique parce que c'est ancré par Vince Coletta et honnêtement. Vince Coletta a rajouté des poils partout. Et en plus, quand tu vois les crayonnés, soit sur des sites d'enchères ou c'est des magazines genre Jack Kirby Collector, Alter Ego ou je sais pas quoi, ou Comic Book Artist, en plus, Vince Coletta virait des personnages. Quand il y avait des planches où il y avait des scènes de foule, des choses comme ça m'emmerdait de les ancrer. Donc, il virait des personnages, par exemple. Donc, là, quand tu vois ça, tu fais bon, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas t'as pas l'impression de voir le full Kirby que t'aurais aimé voir sur ces histoires-là. Et quand je dis ces histoires-là, j'ai l'impression de c'est la voiture qui roule avec le frein, quoi.
Oui,
Tu
et puis
comprends?
c'est d'autant plus rageant qu'on imagine ce que ça aurait pu donner avec un autre encreur.
Sans doute, mais une fois encore, moi je trouve que Kirby, à partir des années 60, a pas souvent été ancré par des gars qui étaient vraiment plutôt, je faudrait le dire à l'envers, a souvent été ancré par des mauvais encreurs, mais ça n'empêche pas qu'il y en a eu quelques-uns qui étaient bien, hein. Mais j'aurais été très curieux dans les années 70 de voir, par exemple, sur un run entier, pourquoi pas sur les Eternals, s'il y avait eu un gars qui avait eu un peu la pêche d'un Klaus Janson, Jack Kirby et Klaus Janson, j'aurais voulu voir ça, et à mon avis, ça aurait dépoté grave, quoi. Et tu vois ça un peu, tu vois ça un petit. La chose la plus proche qu'on puisse avoir de ça, c'est la série Defenders, c'est un moment qui était dessiné par Kate Giffen, alors qui lui est à fond dans le mimétisme de Kirby. Et il y a un moment, c'est ancré par Scott Hanson. Les dessins de Giffen prennent une autre dimension à ce moment-là, quoi.
Eh bien, merci Xavier d'avoir passé ce moment avec nous. On va rappeler la date de fin du financement participatif. Il me semble que c'est le 11 août prochain.
Je crois, mais comment on l'a lancé vraiment dans la journée dès qu'on a eu le feu vert, en fait, c'est le 11 août au matin. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par ça. Et j'ai envie de vous dire, visez plutôt le 10 août au soir, comme ça vous êtes sûr de votre coup. Mais vraiment, c'est un truc où il faut peut-être expliquer aux gens qu'on a eu le financement, le niveau déclencheur, les 100% en l'espace de quelques jours. Mais on a aussi prévu des paliers parce que, pour expliquer un petit peu les coulisses, tout simplement, le plus on arrive à avoir de contributeurs, le plus on fait des économies d'échelle, et ça nous permet de rajouter un cahier, donc en fait une zone en couleur du bouquin, et ce qui me permettra de vous expliquer par l'image avec des cases en comparant des trucs, ça sera un complément assez intéressant. Le prochain palier est à 150%, et c'est justement ce livret externe qui sera pas vendu avec les autres éditions, avec l'autre édition du bouquin. Donc c'est vraiment un bonus qui serait sympa d'avoir, je pense. Si on y arrive, c'est cool. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, si ce n'est qu'après, on va voir. Si, il y a une chose qu'on n'entend pas parler, et ça, je t'en veux beaucoup, Stéphane,
Eh bien,
c'est
vas-y.
qu'on n'a pas parlé, on va parler que, du fait que on a quand même une couverture de Stéphane Pergé. Et
Et une introduction de, comment dire, de Jean-Pierre Dionnet.
de Jean-Pierre Dionnet. Et honnêtement, c'est deux personnes que je tiens énormément à remercier parce que Jean-Pierre Dionnet, il est en train de préparer ses mémoires qui vont sortir bientôt, qui s'appellent tout simplement Mémoire. Donc il est occupé, il a d'autres chats à fouetter. Je lui ai posé la question pour tout vous dire en me disant parce que, mais si tu lui poses pas, après tu vas te dire, t'es un con, t'aurais dû tenter, tu vas le regretter, au pire, tu vas le croiser dans un truc qui te dit. Enfin voilà, mais j'ai vraiment. C'était une demande technique, on y croyait pas. En n'y croyant pas et en me disant comme ça, tu n'auras pas de regrets. Et il m'a répondu super vite et super gentiment que il était OK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel faut remercier ce type qui en plus a fait un travail énorme pour la défense de la culture populaire depuis les années 60. Et puis vraiment, pour plein de raisons aussi, Stéphane Pergé, qui a été une crème en acceptant de nous rejoindre pour ce projet-là, qui a accepté aussi de participer à un palier qui maintenant d'ailleurs est full total. C'était un truc qui permettait à des gens d'acheter le bouquin avec une dédicace dessinée par Stéphane Pergé. Ça a été vraiment un gain dans les premiers jours de mise en place du truc. Et enfin, voilà, lui aussi, Stéphane, il a plein de projets. Il fait Luminari chez Glénat. Il n'est pas en train de compter les étoiles en attendant que quelqu'un l'appelle pour lui trouver des choses à faire. Il est vraiment occupé et il a vraiment eu la gentillesse de nous rejoindre sur ce truc-là. Donc, je suis content parce que c'est des gens gentils et qui nous aident et c'est cool. Voilà.
Et ben voilà, merci Xavier Fournier d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Et puis ben à très très bientôt.
Eh bien, à bientôt et bon courage pour la suite alors.
Merci beaucoup.